Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie, merci pour votre fidélité à cette émission d'un jour dans l'histoire. Fabrice Boutillon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous présente à nos auditeurs, vous êtes historien, historien français, vous travaillez à l'Université de Bretagne occidentale à Brest. Vous êtes venu donc d'assez loin, on peut le dire. Vous êtes un ancien élève de l'école française de Rome, ça compte, c'est très important, pour le livre dont nous allons parler, spécialiste en histoire religieuse du monde contemporain, mais vous êtes également spécialiste des idées politiques, histoire diplomatique. Également, vous dirigez de nombreux étudiants sur des thèses en histoire des relations internationales. Et puis, nous allons ouvrir une petite parenthèse et dédier cette émission à une personne qu'on connaît bien. Il s'agit de Marie Levent. Donc, nous lui faisons un petit clin d'œil. Alors, Fabrice Boutillon, je vous ai invité pour nous parler de votre ouvrage qui vient d'être publié chez Fayard. Alors, il s'agit d'une coédition Fayard Commentaire. Alors, Commentaire, la revue Commentaire, c'est très important. Vous participez régulièrement, vous contribuez régulièrement à la revue Commentaire. Et d'ailleurs, votre ouvrage est issu d'un article que vous avez publié dans cette revue en 2007, un article intitulé « Et le bunker était vide ». Alors nous allons revenir bien évidemment sur ce titre « Et le bunker était vide » parce qu'il y a un sens derrière ce titre. Mais avant tout, donc ce livre s'intitule « Nazisme et révolution, histoire théologique du national-socialisme 1789-1989 ». Alors avant de me lancer dans le sujet, une première question sur cette notion de temps long. Rarement, très rarement on peut dire, les historiens se penchent sur le temps long. Et vous, vous avez osé?
Eh bien, j'ai osé parce que je crois que ça s'impose pour ces questions. Quand on réfléchit sur le XXe siècle, on réfléchit forcément sur le totalitarisme. Et je crois qu'il y a un consensus de plus en plus grand pour dire qu'à certains égards, c'est une histoire qui s'est arrêtée en 1989. Que ce soit la fin du XXe siècle, 1989, tout le monde en est d'accord. Et quand on essaie de rechercher là où les dates à partir desquelles commencent à se mettre en ordre, ce qui a donné le XXe siècle, eh bien, je crois qu'on est obligé, effectivement, de retenir celle de la Révolution française et, du même coup, de s'apercevoir qu'il y a une unité profonde entre ce XIXe siècle qui s'ouvre avec la Révolution française, ce XXe siècle qui se termine avec la chute du mur de Berlin. Et je crois que le parti que je prends, justement, de souligner l'unité de la période qui va de 1789 à 1989, n'est finalement pas si original que cela, et que de plus en plus, il y a un certain consensus qui se dégage autour de ce point de vue.
Alors, je vais revenir, bien évidemment, sur la Révolution française. Je reste pour l'instant sur votre titre. Nazisme et Révolution, on s'attend avant tout à une réflexion politique, une réflexion sur le totalitarisme. Or, votre sous-titre, c'est « Histoire théologique du national-socialisme ». Est-ce que nous sommes, au fond, dans une forme d'histoire religieuse ?
Je répondrai oui et non. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sous-titre, hein, « Histoire théologique du national-socialisme » ? Il y a plusieurs raisons. D'une part, parce que ce livre s'inscrit dans une réflexion sur le totalitarisme en général, et j'avais publié sur l'Union soviétique, donc sur le versant stalinien du totalitarisme, une histoire philosophique. Il faut des gradations ascendantes dans la vie. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai choisi de parler d'une histoire théologique. C'est aussi une certaine provocation, je dois le dire, par rapport au positivisme qui continue d'animer beaucoup, finalement, les études historiques, de les animer ou de les stériliser, je ne sais pas. Mais il y a aussi deux raisons de fond. Tout d'abord, je suis persuadé qu'il y a eu effectivement une dimension religieuse dans l'histoire du totalitarisme et qu'à certains égards, on peut interpréter le phénomène totalitaire au XXe siècle comme un phénomène qui relève de l'histoire religieuse. Et ça fait un certain temps.
Aaron le faisait. Absolument.
Aaron et d'autres aussi, dès les années 30, en fait, il y a eu des gens pour penser les totalitarismes comme des religions séculières, disait Aaron. Donc il y a cette raison-là. là. Et puis, il y a aussi le fait que quand on fait de l'histoire, qu'on réfléchit sur l'histoire, l'un des risques de cette discipline, c'est d'avoir une approche, si je puis dire, un peu myope des sujets qu'on traite, vous voyez, et finalement de déconnecter histoire et philosophie de l'histoire, réflexion sur l'histoire en général. Et c'est pour ça aussi que j'ai parlé d'une histoire théologique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder le nazisme sans se confronter à des questions qui dépassent l'histoire elle-même, mais qui concernent bien le sens de l'histoire, de ces événements épouvantables, justement, auxquels on est confronté quand on regarde cela. Voilà pourquoi ce sous-titre.
Alors, plongeons-nous dans le sujet. En fait, quand j'ai reçu en service de presse ce livre et que j'ai vu cette filiation et cette réflexion sur le temps long, avant même de le lire, j'ai pensé à Mossé et je me suis dit, ça va être un prolongement en quelque sorte de la pensée de Mossé sur la brutalisation des sociétés européennes. Rappelons la pensée de Mossé, il y a une continuité entre révolution, première guerre et deuxième guerre mondiale sur, j'allais dire, le développement de l'individu et sa place par rapport à la violence européenne. Or, vous, c'est différent. 1789 est un événement fondateur, mais vous ne réfléchissez pas, vous ne vous lancez pas sur cette réflexion sur la violence.
C'est vrai, et je ne le fais pas parce que je trouve que ça a été très bien fait par d'autres, et en particulier par Mossé. Et je me sers de ce qu'il a pu dire sur ce thème, justement, pour mener à bien ma réflexion qui s'appuie sur d'autres, qui a d'autres soucis. C'est vrai que, finalement, je dirais que l'auteur qui m'a mené à toutes les réflexions que vous trouvez là-dedans, plutôt que Mossé, ce serait plutôt Hannah Arendt, vous voyez, et chez laquelle, justement, il y a cette réflexion sur le totalitarisme, c'est très connu, bon, les origines du totalitarisme, avec ce tome 3, le système totalitaire. Mais Arendt est aussi l'auteur d'un livre extrêmement intéressant qui s'appelle « L'essai sur la révolution ». Sauf qu'elle, elle a commencé par publier ce qu'elle a pensé sur le totalitarisme, et c'est plus tardivement qu'elle s'est mise à réfléchir sur la Révolution française. Et à certains égards, je crois que ce que je fais, c'est de remettre les choses en ordre chronologique, c'est-à-dire de commencer par la Révolution pour montrer comment, à partir de l'événement de 89, eh bien, justement, on a abouti à l'épanouissement du système totalitaire au XXe siècle.
Alors, j'ouvre une parenthèse, vous citez Hannah Arendt, mais votre livre est bourré de références, et c'est ce qui en fait sa qualité. Nombreuses références contemporaines, historiques, vous parlez de Metz, Burke, etc. Je ferme la parenthèse. Venons-en à l'Allemagne. 1789, événement français. L'équivalent de 1789 pour vous en Allemagne, c'est 1806.
Oui, ce que je pense, c'est que la Révolution française, de toute façon, est un événement de l'histoire européenne. Mais c'est un peu comme une pierre que vous jetez dans un puits. Vous savez, il va y avoir des ondes qui vont finir par occuper tout le puits, mais qui n'arrivent pas toutes au même moment, au même endroit. Et en fait, donc, il se passe en France quelque chose de décisif en 89, et les différents pays européens vont être atteints à des dates différentes. C'est ainsi que pour l'Italie, par exemple, le moment où elle est atteinte par le dynamisme révolutionnaire, c'est 1796, la descente de Bonaparte en Italie. Et c'est le moment où l'ensemble de l'organisation politique italienne de la fin du XVIIIe siècle vole en éclats. Pour l'Allemagne, c'est un processus qui est plus complexe, qui commence dès le moment où l'Autriche et la Prusse sont en guerre avec la France. Mais il me semble que le moment irréversible dans l'histoire allemande, eh bien, c'est 1806, l'effondrement du Saint-Empire. Et en fait, en France, on en parle assez peu parce que je dirais que les Français, à partir de la paix de Westphalie, ne prennent plus le Saint-Empire au sérieux, considèrent que c'est une coquille vide et que l'essentiel dans la vie politique allemande se passe au niveau de ce que nous appelons maintenant les Länder, donc les États constitutifs du Saint-Empire, que ce soit la Bavière, toute cette collection d'électorats, l'Autriche, ça c'est du sérieux, le Saint-Empire ce n'est rien. Ce n'est pas mon avis, je crois que le Saint-Empire est le cadre dans lequel justement s'organise la vie allemande et que l'effondrement du Saint-Empire est aussi important pour l'histoire de l'Allemagne que l'effondrement de la monarchie française pour l'histoire de la France. C'est le moment où un contrat social qui valait ce qu'il valait, mais qui fournissait le cadre dans lequel vivait une collectivité, s'écroule. Et à partir de ce moment-là, eh bien, l'Allemagne, comme la France, elle est confrontée par la Révolution à la même question, comment refonder une unité. Et la question est la même. Pour nous, la question de l'unité, c'était refonder l'unité entre une gauche et une droite, que la Révolution avait séparée. La gauche se constituant en France comme le parti de la Révolution, la droite comme le parti de la contre-révolution. Et la question politique fondamentale du 19e siècle français est de savoir comment on va réussir à les réconcilier, à les faire tenir ensemble, à reconstituer une unité qui a été brisée en 89. Eh bien, en Allemagne, c'est la même question qui va se poser, avec justement des irisations différentes, parce que l'Allemagne a une tradition beaucoup plus décentralisée, beaucoup plus plurielle que la nôtre, mais c'est depuis 1806, depuis l'effondrement du Saint-Empire, que se pose la question de l'unité allemande, et vous savez aussi bien que moi qu'elle s'est posée jusqu'à la chute du mur de Berlin et la réunification des deux Allemagnes. Encore ne sait-on pas si l'Autriche restera indépendante éternellement. C'est une question qui se pose toujours.
Le premier paradoxe révolutionnaire, c'est de créer cette idée de contrat social, alors que finalement, vous le montrez bien, la révolution, bon, tout le monde le sait, crée cette division entre la droite et la gauche.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, les révolutionnaires sont des contractualistes. Ils veulent fonder, refonder l'unité sur un contrat, mais ils commencent par déchirer le contrat social qu'ils trouvent quand ils entrent en politique. Effectivement, c'est l'un des paradoxes de leur démarche.
Alors, dans la fondation de l'unité, est-ce qu'on peut le dire que finalement, 1806 est aussi à la source de l'unité allemande telle qu'elle sera conçue plus tard par Bismarck ?
Oui, c'est-à-dire que Bismarck, lui aussi, s'est confronté à cette question que la Révolution française avait posée à l'Allemagne. Comment refaire l'unité ? Et en fait, bon, il y avait en Allemagne deux manières de faire l'unité. Soit on avait un pouvoir central qui était extrêmement intensif, mais dans ce cas-là, il n'arrive pas à englober l'ensemble des Allemands. Si le pouvoir central est intensif en Allemagne, il est faiblement extensif, vous voyez. Ou bien alors, vous avez un pouvoir central qui est finalement assez faible et qui peut englober tous les Allemands. Le Saint-Empire n'était pas un pouvoir tellement puissant. Tous les Allemands tenaient dedans. Après la Révolution française, vous allez avoir la Confédération germanique, pouvoir extrêmement faible. Tous les Allemands sont dedans. Et le choix de Bismarck n'est pas si original que ça. Finalement, c'est l'autre option. Il va vouloir un pouvoir central intensif et fort à Berlin. Et mon avis est que ça se paye par le prix habituel qui est la rupture de l'unité allemande. Et cette fameuse unité allemande dont on crédite Bismarck, on pourrait aussi bien l'accuser de l'avoir brisée définitivement, puisque le prix auquel il accepte de payer le pouvoir central à Berlin, ben c'est la sortie de l'Autriche de l'ensemble allemand. Or, l'Autriche était allemande depuis que l'Allemagne était sortie des eaux à l'ère secondaire.
Je voudrais un peu revenir en arrière. Que brise 1789 aussi ? Vous montrez qu'au fond, 1789 brise à la fois une conception politique, mais une conception religieuse de la politique.
Oui, c'est-à-dire que là aussi, ce sont des idées que j'ai trouvées chez Arendt essentiellement. Chez Arendt, il y a finalement l'intuition qu'il faut remonter jusqu'à l'Empire romain pour comprendre finalement l'actualité du politique du XXe siècle.
Et au-delà, la Grèce aussi.
Oui, effectivement. Une de mes convictions, c'est que notre histoire politique est une histoire philosophique. Vous voyez que dans les débats qui dressent l'une contre l'autre la gauche et la droite, par exemple, on retrouve des pétitions, on retrouve des postulats qui sont à l'œuvre dans l'histoire de la philosophie occidentale. Par exemple, la droite se réclame la plupart du temps de valeurs locales, la gauche de valeurs universelles. Ce débat entre l'universel et le local, c'est le fond de commerce de la philosophie occidentale depuis les présocratiques, voyez-vous. Mais l'idée d'Arendt, c'est que, en fait, à la fin de l'Antiquité, vous avez en Europe une seule source de légitimité qui est l'Empire romain, voyez-vous. Cet Empire romain s'écroule et la question qui se pose quand l'Empire romain s'est écroulé, c'est d'où viendra désormais la légitimité. Et donc dans un texte qui est admirable, c'est « Qu'est-ce que l'autorité ?» Ça a été repris dans la crise de la culture. Arendt explique que l'homme qui va empêcher que la question prenne des proportions tragiques, c'est saint Augustin, parce que au moment de la chute de Rome, il écrit la Cité de Dieu et il explique que la légitimité continue de venir de Rome malgré la chute de l'Empire, parce que désormais la légitimité en politique ne vient plus de l'Empire de Rome, mais de l'Église de Rome. Et ça vous donne le régime politique sur lequel a tenu tout l'Occident jusqu'à la Révolution, où effectivement les chefs d'État sont investis par un représentant de l'Église de Rome. L'empereur allemand était sacré par le pape, vous voyez, le roi de France par l'archevêque de Reims, et c'est ce régime qui va s'effondrer au moment de la Révolution française, qui achève de s'effondrer au moment de la Révolution française. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a une dimension religieuse dans la Révolution et dans ses suites. Parce que le régime écroulé était un régime chrétien, donc refonder une nouvelle cité doit avoir une dimension religieuse, puisque la cité ancienne en avait une. Mais il y a une raison plus puissante encore. Vous avez déchiré un contrat social, vous voulez en refonder un. La question qui se pose à vous, c'est celle de relier les hommes. Vous voyez, ils étaient reliés par un contrat, vous voulez recréer des liens. Relier, religarer, c'est l'origine du terme religion. Et c'est pourquoi, quand on se lance dans une entreprise révolutionnaire, documentaire, il doit y avoir effectivement à un moment ou à un autre une dimension religieuse dans votre pratique. Et la meilleure preuve en est l'histoire même de la Révolution française, voyez-vous. On verra des gens qui sont des fils des Lumières et proclamer de nouveaux cultes. Bon, il y a là une réalité qui ne doit rien au hasard.
Je reçois Fabrice Boutillon, historien et auteur du livre « Nazisme et Révolution » paru chez Fayard et dans la revue Commentaire, les éditions de la revue Commentaire. Nous nous retrouvons dans un petit instant. À tout de suite.
Canal Académie vous propose un grand entretien avec Michel Serres de l'Académie française sur la notion d'identité. Quelle différence entre identité et appartenance? Qu'est-ce que l'hominescence? Quel rapport entretenons-nous avec notre corps? Autant de questions auxquelles répond Michel Serres dans une émission Éclairage sur Canal Académie.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Fabrice Boutillon, auteur du livre « Nazisme et Révolution » paru chez Fayard Commentaire, « Nazisme et Révolution, histoire théologique du national-socialisme 1789-1989 ». Nous avons, Fabrice Boutillon, évoqué donc cette époque fondatrice 1789. Faisons un bond dans le temps, revenons à Bismarck, vous l'avez un peu évoqué à la pause, et vous avez également évoqué la dimension religieuse, théologique, disons-le, de l'histoire. Bismarck, très concrètement, est confronté à des opposants. Il y a deux types d'opposition. Il y a à la fois l'opposition des catholiques et il y a à la fois l'opposition des socialistes. Comment va-t-il, au fond, faire face à ces deux forces et dans son dessein unitaire, car il s'agit bien de préserver cette unité fondée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur ce contrat social de 1806.
Eh bien, je pense que la première option de Bismarck pour faire tenir ensemble socialistes, catholiques et le reste des Allemands, ça a été la trique. Il a d'abord eu recours à la répression, aussi bien contre les catholiques que contre les socialistes. Et pour le comprendre, il faut peut-être commencer par réfléchir sur la nature, effectivement, de l'œuvre politique de Bismarck. Moi, je le définis essentiellement comme un centriste. Vous voyez, il est centriste. Pourquoi ? Parce qu'il s'attaque à la tâche née de la Révolution qui consiste à réconcilier la gauche et la droite. Bon, si vous voulez réconcilier la gauche et la droite, vous êtes centriste, voyez-vous. Mais centriste, vous pouvez l'être sur deux modes. Vous pouvez l'être par exclusion des extrêmes, en disant ni l'extrême droite, ni l'extrême gauche. Vous avez donc un modèle de centrisme qui est modéré et qui exclut les extrêmes. Vous avez un autre modèle, et à mon avis, c'est à ce modèle qu'appartient la variante qu'on appelle le totalitarisme, qui est centriste, parce que lui aussi veut réconcilier gauche et droite, mais les réconcilie par addition des extrêmes, voyez-vous. Eh bien, Bismarck est, à mon avis, un modèle de centriste par exclusion des extrêmes. Vous regardez son œuvre unitaire, ou de construction du Second Reich. Il y a une part qui est faite à la gauche. Et la part faite à la gauche, c'est la naissance d'un Reichstag, voyez-vous. Une assemblée représentative du peuple allemand, élue au suffrage universel masculin à l'époque. Et c'était d'une très grande audace. Hein. Sur le continent, il n'y avait qu'en France qu'on avait osé confier au peuple et au suffrage universel, l'élection de l'Assemblée représentative. C'est la part qui est faite à la gauche. Vous avez une part qui est faite à la droite, et c'est toute la dimension dynastique de l'œuvre de Bismarck. Il maintient les anciennes dynasties. Il y a là quelque chose qui est hérité de l'ancien régime. Voilà. Or, quand vous regardez la position des socialistes, en particulier sur l'échiquier politique du temps, les socialistes sont à l'extrême gauche et donc ne peuvent pas être intégrés par Bismarck dans son œuvre, et c'est pourquoi il les a réprimés avec la plus grande vigueur. En même temps, parce que Bismarck est un homme extrêmement intelligent, d'une part, donc, il prend toutes sortes de mesures contre le socialisme et il fait adopter une législation sociale qui est la plus avancée peut-être du monde à son époque. Ce qui fait qu'en 1914, la classe ouvrière allemande, elle est exclue de l'État sur le plan politique. Le parti de la classe ouvrière, qui est le parti socialiste allemand, est considéré comme composé de mauvais Allemands. Mais en revanche, cette classe ouvrière, elle est intégrée ou en voie d'intégration sur le plan social à l'Empire. Et quant aux catholiques, on peut aussi en donner une vision politique, c'est-à-dire que chez les catholiques, il y a une nostalgie de cet ancien régime que moi j'appelle augustiniste, et où justement c'était l'Église qui investissait les gouvernements. Et le catholicisme allemand a très mal vécu justement la Révolution française, parce que après la chute du Saint-Empire, qui était saint, tout de même, les catholiques allemands vont devenir des citoyens de seconde zone, puisque dans l'Allemagne, il y a une majorité protestante. Vous avez donc une opposition catholique, vous voyez, à l'œuvre bismarckienne, et c'est pourquoi Bismarck a été extrêmement dur contre les catholiques. À peu près dès 1870-71, vous avez ce qu'on appelle le Kulturkampf. Sauf que, à partir d'un certain moment, il va s'apercevoir que plus il attaque les catholiques, plus il renforce leur cohésion, et donc il finira par aboutir à une sorte d'accord avec le Saint-Siège, voyez-vous, ce qui fait que les catholiques accepteront, puisqu'ils ont fondé le Zentrum, ce grand parti, accepteront de lui rendre des services sur le plan parlementaire, en échange de quoi Bismarck retirera l'essentiel de la législation anticatholique. Mais on peut considérer que socialistes et catholiques sont les deux grandes forces sociales qui, à l'intérieur du Reich de Bismarck, ne sont pas intégrés à l'Empire au moment où la guerre va éclater.
Il y a un élément aussi fondateur qui est très important, et on pense aussi à la France avec le général Boulanger, où le nationalisme passe en quelque sorte de gauche à droite, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais le nationalisme reste une idée à la base de gauche rousseauiste. Et on voit la même chose en Allemagne.
C'est-à-dire que ce que je pense, c'est que la date essentielle dans l'histoire de toute droite, c'est celle où, au cœur de ses valeurs, la nation remplace la nostalgie de l'ancien régime, voyez-vous. Alors, c'est un peu complexe, mais effectivement, la ligne de séparation entre la gauche et la droite, c'est le rapport à la révolution, voyez-vous, tel qu'il se forme en 89. La gauche veut la révolution, approuve cette recherche de refondation de la cité sur un nouveau contrat social, voyez-vous, et la droite refuse cette démarche, veut en revenir à l'ancien contrat social, veut en revenir à l'ancien régime, vous voyez. Et puis, vous allez avoir un moment, dans le cours du 19e siècle, la plupart du temps, où le retour à l'ancien régime n'est plus concevable. Et en France, cette date, elle est extrêmement facile à repérer. C'est tout simplement la mort du dernier descendant en ligne directe de Louis XIV qui fut français, c'est-à-dire du comte de Chambord, 1883. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus revenir à l'ancien régime, puisque l'ancien régime, c'était la maison de Bourbon, et que de maison de Bourbon, il n'y a plus en France.
Sauf au-delà des Pyrénées.
Sauf au-delà des Pyrénées, mais justement, nous parlons de la France.
Exactement.
Vous voyez.
Oui.
Et à partir de ce moment-là, le rapport entre gauche et droite va évoluer. Je vous le disais, la gauche se révolte contre le contrat social en place au nom de valeurs qui sont la justice, la raison, l'égalité, au nom de valeurs qui sont des valeurs universelles. Et la raison pour laquelle la droite effectivement s'oppose à la gauche, c'est de dire le contrat social que vous contestez était ce qu'il était, il avait l'avantage d'exister. Et les valeurs de la droite sont profondément des valeurs locales, elles se réclament du concret contre le virtuel. Vous voyez. Et il y a un moment, donc, quand elle ne peut plus se réclamer de l'ancien régime, où au cœur de ces valeurs, eh bien, elle va placer une valeur locale qui est la nation. Et je crois que c'est, dans toutes les droites européennes, le moment d'évolution décisif.
C'est très intéressant parce qu'on en vient à l'union sacrée et à la guerre. Et vous évoquiez le mot nation, on pense, alors là c'est encore une fois du côté français, mais tout ce qu'a pu dire Charles Maurras de la nation, l'importance de la nation, et on voit bien qu'il en fait une valeur de droite locale, comme vous le dites. Or, Maurras, comme tout le monde, en France, oui. Eh bien, va adhérer à l'union sacrée. Et cette union sacrée est vraiment déterminante, tant en France qu'en Allemagne.
Alors effectivement, monsieur, s'il y a un point sur lequel je me sépare d'à peu près tous les historiens français, c'est justement dans la vision qu'on nous propose justement de l'histoire politique du 19e siècle en France. Donc, on nous le présente très souvent comme une espèce d'assomption de la République, vous voyez. On nous dit que à partir de 89, les jeux auraient été faits et que le sens de l'histoire, c'était la République.
C'est du positivisme.
Je ne sais pas si c'est du positivisme. Je ne crois pas. Je ne crois pas, justement, si seulement c'était du positivisme. Mais non, non, non. Je pense que c'est essentiellement une vision militante de l'histoire qui était la vision qu'en avaient les républicains du 19e siècle. Et qu'elle est tellement dans toutes les dimensions de notre culture que nous avons oublié à quel point elle était militante. Pour nous, elle est une évidence. Or, c'est faux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à partir de la Révolution française, il s'ouvre dans notre pays ce que j'appelle une vacance de la légitimité. Dans notre pays, il n'y a plus de légitimité, c'est-à-dire de pouvoir politique qui s'impose comme naturel à l'ensemble des gens qui y vivent. Nous n'avons plus de légitimité, nous avons des légitimismes, simplement, qui tous prétendent être la légitimité. Et la République n'est qu'un de ces légitimismes. Et tout au long du XIXe siècle, vous avez eu un choix politique possible entre trois légitimismes principaux, la République, le bonapartisme et la monarchie, le retour justement à l'Ancien Régime. Bon. Et en fait, le seul moment à partir duquel les Français ont jugé la République légitime, tous les Français ont jugé la République légitime, c'est en 14, c'est l'Union sacrée. Pourquoi ? Eh bien, la raison, je l'ai trouvée d'ailleurs grâce à Arendt, parce que c'est Arendt qui m'a fait lire Burke, vous voyez. Et en fait, Burke a une analyse absolument géniale des conséquences de ce qui se passe en 89. Et il explique que quand vous avez déchiré un contrat social, vous ne pourrez le refonder que si vous avez l'unanimité autour du nouveau contrat que vous préparez. Or, dit Burke, cette unanimité, vous êtes certain que vous ne la trouverez jamais, parce que les bénéficiaires du régime ancien n'ont aucun intérêt et n'ont aucun devoir non plus d'accepter le nouveau contrat que vous leur préparez. Bon, je ne rentre pas davantage là-dedans, mais en tout cas, l'essentiel à comprendre, c'est que pour que la légitimité se retrouve, il faut qu'il y ait unanimité. Or, regardez l'histoire politique de la France. De 1789 à 1914, il n'y a pas un point en politique sur lequel tous les Français soient d'accord. Voyez. Et en 14, dans l'Union sacrée, justement, dans la défense nationale, la droite et la gauche se réconcilient enfin. Pourquoi ? Parce que c'est une défense. Ça peut donc se présenter comme une guerre du droit, vous voyez, ce genre de choses. C'est national, c'est du local. Vous avez donc fusion des deux familles, de la gauche et de la droite, reconstitution de l'unité. Et c'est vrai en France, c'est vrai en Allemagne, et en Allemagne, les mêmes questions se posaient, les mêmes réponses sont données. L'Allemagne, il s'agissait de réconcilier, encore une fois, ce que la Révolution avait séparé. Et en 1914, vous allez voir en Allemagne le Parti socialiste accepter de voter les crédits de guerre, hein, vous voyez, vous allez voir les catholiques rentrer dans l'Union sacrée, le même phénomène de fermeture de la brèche ouverte en 89 se produit. Sauf que, et c'est seulement à ce moment-là que les deux histoires nationales vont diverger, sauf que, justement, en France, nous gagnons la guerre. Donc, cette résolution de la fracture de 89 reçoit la validation que donne la victoire. Et à partir de ce moment-là, la République devient aussi légitime qu'était la monarchie avant 88. Alors que l'Allemagne perd la guerre, perd du même coup aussi les bénéfices de l'Union sacrée, la gauche et la droite se reséparent, et il va donc falloir que l'Allemagne emprunte d'autres voies pour essayer de les réconcilier. Et là, justement, elle va faire l'expérience d'un centrisme par addition des extrêmes qui va être le national-socialisme.
Alors, les auditeurs s'étonneront peut-être que nous parlions de national-socialisme après une demi-heure, mais c'est très important parce que finalement, tout ce que vous avez évoqué jusqu'à présent constitue plus de la moitié de votre ouvrage et on ne peut comprendre ce national-socialisme si on ne remonte pas à la Révolution. Venons-en donc à Hitler, c'est ce que je vous propose de voir Fabrice Boutillon après cette deuxième pause. Je reçois Fabrice Boutillon, historien à l'Université de Bretagne occidentale à Brest. Fabrice Boutillon, vous êtes l'auteur de « Nazisme et révolution », une coédition Fayard Commentaire. Nous en sommes donc à l'arrivée d'Hitler, mais peut-être avant l'arrivée d'Hitler, j'allais dire au pouvoir, mais nous n'allons pas commencer à 1933, nous allons commencer à 1920, c'est la République de Weimar. Quel rôle joue cette République de Weimar dans ce processus ?
Eh bien, je vous le disais, donc, La guerre de 14, c'était l'un des moments où les différentes nations d'Europe avaient une chance de refermer cette brèche entre la gauche et la droite, vous voyez. Et l'Allemagne, elle a perdu cette chance puisqu'elle a perdu la guerre. Donc, elle est condamnée à faire ce que le 19e siècle avait fait avant elle, c'est-à-dire à essayer de réconcilier gauche et droite sur les deux modes canoniques de cette réconciliation, centrisme par exclusion des extrêmes ou centrisme par addition ou inclusion, comme vous le voudrez. Et en fait, elle a commencé par l'exclusion des extrêmes. Et il me semble que la République de Weimar, c'est encore un type de centrisme par exclusion des extrêmes. Elle a de la gauche, c'est une république désormais. Mais c'est une république qui est parlementaire. Le texte constitutionnel dit que le Reich allemand devient une république. Elle a gardé beaucoup de choses de l'Ancien Régime, mais il n'y a plus la monarchie, etc. Donc on peut considérer la République de Weimar comme un centrisme par exclusion des extrêmes. Et c'est l'échec de cette république, pour des raisons qui sont bien connues, hein, les conséquences de la guerre, la crise de 1929, qui finalement va ouvrir la voie à l'autre option pour réconcilier la gauche et la droite, qui est le centrisme par addition des extrêmes, et ça va vous donner le national-socialisme, une valeur de droite, le nationalisme, une valeur de gauche, le socialisme, tout ça s'incarnant dans la personne d'Adolf Hitler.
Alors vous commencez précisément par le mois de février 1920, qui est l'énoncé en quelque sorte du programme du national-socialisme. Et c'est très important, j'ouvre une petite parenthèse historiographique. Souvent on a tendance sur cette période à oublier les textes. Vous dites la plupart des historiens s'en tiennent à des propos de table, mais malheureusement c'est le cas. Vous revenez aux textes et aux textes fondamentaux qu'a écrit Hitler pour pouvoir en dégager des conclusions.
Je fais un peu de nécessité vertu, c'est-à-dire que comme vous le rappelez, je travaille et j'habite à Brest, vous voyez, donc je suis loin des dépôts d'art. Archives. Je travaille essentiellement pour des étudiants de première ou deuxième année et ce sont des raisons qui font que je relis des textes qu'on pourrait appeler canoniques ou fondamentaux, ouais. Voyez-vous. Donc c'est un peu pour ça que je le fais, par misère, si je puis dire. Mais je trouve qu'on a grand intérêt à lire Mein Kampf parce que quand on le lit de près, eh bien, on y trouve des textes qui sont extraordinaires pour éclairer le destin de l'Europe et de l'Allemagne, en particulier au XXe siècle. Et en particulier, donc, le texte de février, enfin, qui nous parle de février 1920, c'est celui qui termine le tome 1 de Mein Kampf et qui décrit ce qu'on appelait dans la mythologie nazie le meeting de fondation du parti nazi. Donc, la première grande réunion nazie où les nazis ont affronté le risque de se trouver devant une salle vide, parce que c'était dans l'une des plus grandes salles de réunion de Munich et il fallait qu'il y ait 2000 personnes pour qu'on n'ait pas l'impression d'un bide, hein, vous voyez. Donc, ils ont eu 2000 personnes. Et Hitler choisit de terminer le tome 1 de Mein Kampf, qui en compte deux, sur le récit de ce meeting de fondation. Et c'est un texte que j'ai trouvé prodigieux parce qu'on voit très bien dans ce texte comment le nazisme, effectivement, additionne extrême-gauche et extrême-droite. Et je dirais que, d'un certain point de vue, dans ce texte-là, on voit un discours hitlérien qui est un discours, à certains égards, de droite et une pratique politique hitlérienne, qui, elle, est une pratique de gauche héritée de la Révolution française. Puisque, justement, c'est un meeting, vous voyez, et dans lequel on voit Hitler employer toutes les recettes politiques de la gauche en meeting ou de la gauche en AG, pour le dire, en employant un terme qu'on voit toujours employé dans les mouvements sociaux français, par exemple.
Mais est-ce que vos contradicteurs ne vous diront pas « Oui, c'est une forme de gauche, mais ça reste un fond de droite et d'extrême droite ?»
Et oui, bien sûr, ils peuvent le dire, mais je crois que c'est précisément une de ces affaires où la forme emporte le fond. Je veux dire que si vous cherchez dans l'Allemagne du temps des hommes de droite, vous voyez, des hommes politiques de droite, vous pouvez par exemple regarder quelqu'un comme von Papen, vous voyez, qui va être chancelier quelque temps. Voilà quelqu'un qui a un von. Et Adolf ne s'appelle pas Adolf von Hitler, vous voyez. Voilà quelqu'un, d'autre part, qui pratique une sociabilité politique extrêmement particulière. Il n'a, pour ainsi dire, jamais fait de carrière électorale. Vous voyez, ce Papen, il a été vaguement élu au Landtag de Prusse, mais c'est rien. Et il construit sa carrière sur des contacts extrêmement sélects dans des clubs huppés de Berlin, dans l'entourage du président, en fait, avec toute une sociabilité courtisane, voyez-vous. Alors qu'avec Hitler, vous avez un homme du peuple, vous voyez, qui tient un langage populaire. Et il me semble que c'est précisément dans cette union d'un discours politique qui vient de la droite, vous voyez, et d'une pratique politique qui est de gauche, que se constitue cette identité centriste du nazisme. Ce n'est pas le seul biais, mais à mon avis, c'est fondamental.
Est-ce qu'il y a une forme, dès 1920, de messianisme ?
Oui, oui, absolument. Enfin, en tout cas, le texte de Mein Kampf est un petit peu postérieur, puisque ça doit dater des années 1925. Vous voyez, ça décrit une scène de 1920, mais le texte que je regarde date de 1920. Mais il est clair que, assez vite, effectivement, s'est constitué autour de Hitler quelque chose de tout à fait particulier qui lui a accordé un statut qui est devenu de plus en plus messianique et quasi divin, en effet. Et ça vient très vite.
Alors, Mein Kampf, il y a une thématique qui est très importante. Vous parliez tout à l'heure d'opposition entre le local et l'universel. Vous abordez la question de l'opposition de la culture et de la civilisation dans votre chapitre consacré à Mein Kampf.
Oui, en fait, il me semble que cette thématique de la culture et de la civilisation est quelque chose de très ancienne dans la tradition allemande, même si celui qui la formule, je crois, le mieux est peut-être Thomas Mann d'abord, et puis après ça va être repris, mais à peu près au même moment, par Spengler dans Le déclin de l'Occident, vous voyez. Alors pour l'expliquer aux auditeurs, si vous voulez, nous, en France, nous opposons la culture à la nature, vous voyez. Et les Allemands, au contraire, opposent la culture à la civilisation. Pour eux, la culture, c'est quelque chose qui, justement, est toujours enraciné dans la nature. La culture est vive, elle est capable d'inventivité, de création, parce qu'elle est enracinée dans la nature, et elle l'est grâce à la médiation d'une langue qui est vécue comme une langue originaire, vous voyez. Et donc la culture allemande en est une, véritablement, parce que les Allemands ont toujours continué à parler leur langue originaire, qui était un parler germanique. Et c'est une thèse qu'on trouve chez Fichte dans les discours à la nation allemande. Et les Allemands opposent à la culture, justement, qui est donc enracinée localement. Pour eux, vous voyez, ils opposent justement ce qu'ils appellent la civilisation. Et la civilisation, c'est donc toutes les réalités que peuvent produire des peuples qui, justement, sont profondément des peuples coupés de leurs racines locales. Des peuples qui, comme justement le peuple français, vous voyez, ont abandonné leur langue originaire, langue germanique pour les Francs, mais on pourrait aussi dire celtique pour le substrat gaulois, au profit de la langue de l'occupant latin. Et à partir de ce moment-là, dit Fichte et disent avec lui toutes sortes d'Allemands, eh bien, les Français sont devenus incapables d'être un peuple véritablement culturel. Les Français ne sont plus capables d'avoir une culture inventive, créatrice. Ils sont simplement capable de répéter, de systématiser, d'universaliser, hein, nous y voici, le bagage antérieur qu'ils avaient trouvé chez les Latins. Et en fait, il me semble que dans la culture allemande, dans la tradition allemande, quand on oppose culture et civilisation, on oppose en fait valeurs de droite enracinées localement et valeurs universelle, vécue comme déracinée, voyez-vous. Or, il y a des textes hitlériens qui sont incroyables parce qu'on trouve au début du texte cette opposition entre la droite et la gauche, la culture et la civilisation, et Hitler de nous dire à quel point la gauche est horrible, méprisable, juive, tout ce qu'on veut, vous voyez. Vous lisez le texte un peu plus loin et à la fin du texte, vous trouvez ce mouvement de réconciliation entre la gauche et la droite qui se traduit, entre autres, par l'emploi de la formule « la culture et la civilisation sont liées indissolublement au rôle de l'Aryen », par exemple. Mais ça veut dire que en Hitler, on cesse de penser le couple culture et civilisation comme antinomiques, vous voyez, on les place sur le même plan, on les réconcilie. Et je crois qu'il y a là un indice de cette identité du nazisme, d'une part, et il est impossible de le nier, le nazisme vient de la droite, est une extrême droite, mais en même temps et contradictoirement, le nazisme unit apport de la droite, apport de la gauche, apport de l'extrême droite et de l'extrême gauche.
Je vous cite, vous écrivez, c'est dans la conquête du monde entier par un seul peuple, exalté ainsi en une aristocratie planétaire, que doit, selon la conception hitlérienne de la réunification du nationalisme et du socialisme, advenir un jour l'utopie devenue, depuis le mouvement émancipateur moderne, si typique de la gauche, d'une humanité enfin réconciliée. Le nazisme, vous terminez, est un humanisme. Alors, bien évidemment, il faut oser écrire cela, mais vous défendez votre point de vue et vous le défendez, au fond, par son contraire, qui est Marx. C'est-à-dire que, en gros, vous dites Hitler est un anti-Marx, il le critique, mais il en reprend exactement les mêmes thématiques.
Non, mais donc là, nous parlons du deuxième texte de Mein Kampf que je regarde de près dans ce livre, qui là est au début du tome 2. Donc, c'est le moment où Hitler essaie de définir ce que veut dire le terme de völkisch, ce qu'on traduisait par raciste. Que veut dire raciste ? Donc, on est au cœur de l'idéologie hitlérienne et ce texte, effectivement, à tomber à la renverse, parce que dans ce texte, il y a tout un discours sur le juif Marx, et moi, ce qui me sidère, c'est que, parlant de Marx, quand Hitler parle de Marx, il est au comble de la haine, et que d'autre part, ce qu'il dit de Marx est un discours qu'il tient sur lui-même. Ce qu'il reproche à Marx est exactement ce qu'il a fait, vous voyez. Donc on est justement à un niveau de réconciliation, si je puis dire, de la gauche et de la droite, qui là tend la main à la psychanalyse. Il se passe quelque chose dans, à l'intérieur même d'Adolf Hitler pour qu'il puisse tenir ce discours-là sur Marx. Alors, si j'aboutis à dire que le nazisme est un humanisme, vous voyez simplement par une tendance à la gaminerie dont il faudrait que je me guérisse avant ma mort, peut-être. Il y a aussi là-dedans une polémique catho, vous voyez, contre la gauche. Il y a un livre, je crois, du cardinal de Lubac qui s'appelle « Le drame de l'humanisme athée », vous voyez. Donc c'est un peu cette soupe que je resserre, vous voyez. Simplement pour rappeler, justement, à une certaine historiographie de gauche, à une certaine pensée de gauche, qu'elle ne devrait pas être si tranquille qu'elle est quand elle crache sur le nazisme, vous voyez. Parce que dans le nazisme, il y a des choses qui viennent de la gauche, et en particulier, je le maintiens très fermement, chez Hitler, il y a une vision utopique d'une humanité parfaite qui serait une humanité au sommet de laquelle on trouverait le peuple allemand, et un peuple allemand qui est une aristocratie, donc valeur de droite par rapport à tous les autres peuples du monde, mais qui est vécu par Hitler sur un mode profondément égalitaire au sein même du peuple allemand. Tous les Allemands sont égaux parce que tous les Allemands appartiennent justement à la race aryenne. Bon. Et il me semble que le meilleur condensé de cette union entre gauche et droite dans le nazisme, on le trouve justement dans ce terme typiquement nazi de « Herrenvolk ». Alors, en français, on l'a souvent traduit par « race des seigneurs ». « Volk », ça veut dire le peuple, la nation, la race, et « Herr », c'est les seigneurs. Si on traduit par « race des seigneurs », je crois qu'on loupe quelque chose d'important, parce que dans notre lexique politique, la race et les seigneurs, ça vient de la droite, justement. Alors que Herrenvolk est excellemment traduit dans l'édition française de Mein Kampf en 1934 par maître-peuple. Maître pour Herr et peuple pour Volk. Et là, je trouve qu'on rentre beaucoup plus loin dans la compréhension du nazisme parce qu'il réussit à fondre en un seul mot, avec cette vertu de la langue allemande qui arrive à créer des mots nouveaux, en un seul mot, une valeur héritée de la gauche, une valeur héritée de la droite.
Alors, premier texte fondateur, donc 1920, puis après nous sommes passés à Mein Kampf, et étrangement, nous allons voir pourquoi, vous passez directement au dernier texte, donc rédigé dans le bunker, et d'ailleurs pourquoi le bunker était-il vide, oui. C'est ce que nous allons voir après cette toute dernière pause.
La bibliophilie est à l'honneur sur Canal Academy. En compagnie de notre bibliologue Bertrand Gallimard Flavigny, vous découvrirez des ouvrages et manuscrits rares présentés avec esprit dans l'émission Au fil des pages. Le bibliologue, une rubrique de Canal Academy, à écouter et télécharger sur canalacademy.com.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à l'histoire théologique du national-socialisme. Je reçois l'historien Fabrice Boutillon, auteur du livre « Nazisme et révolution », une coédition Fayard Commentaire. Alors Fabrice Boutillon, nous évoquions l'étude des textes, et Dieu sait si elle est importante pour les étudiants, et vous terminez en fait votre ouvrage par un très long chapitre, quasiment 70 pages, consacré donc au testament politique. Et quand beaucoup voient dans ce testament, au fond, une sorte de, même pas de barreau d'honneur, mais un texte écrit un peu à la va-vite, vous vous reconsidérez, vous reprenez le texte et vous l'étudiez à fond.
Il faut que je réponde à votre question précédente, monsieur. Donc, pourquoi est-ce que je passe des textes des années 20 à un texte qui date de 1945? Eh bien, je le fais précisément parce que je ne prétends pas du tout tout savoir ni tout dire sur l'histoire du national-socialisme. Et il y a toute une histoire du national-socialisme qui est écrite par d'excellents historiens et à laquelle je n'ai pas grand-chose à apporter parce que je n'ai pas de nouveaux documents, je n'ai pas d'autre chose. Donc, je parle de ce que j'ai l'impression de percevoir. Et ce testament politique d'Adolf Hitler est effectivement un texte qui mérite d'être regardé. Et en fait, j'ai écrit ce livre en commençant par la fin, puisque ce dernier chapitre a d'abord été publié, donc, effectivement,
dans la revue Commentaire
et aux éditions Hermann. En fait, c'était un livre en soi, mais j'avais toujours voulu en faire la fin de celui-ci. Pourquoi ? On est donc à la toute fin du mois d'avril 1945, Berlin étant encerclé par les soviétiques, l'Allemagne est à peu près intégralement envahie par les soviétiques d'une part, les occidentaux à l'ouest, et Hitler, dans son bunker, sait qu'il n'a plus d'option véritable. Que va-t-il faire ? Donc il dicte ce texte qu'effectivement la plupart des historiens traitent par-dessous la jambe. Or, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans ? On trouve un paradoxe incroyable. D'une part, l'aveu de la part de Hitler que la guerre est finie, qu'elle est perdue. Vous voyez, c'est la première fois finalement qu'il le reconnaît, voyez-vous. Et la conclusion logique, ça devrait être qu'il se taise. Vous voyez. Or, au lieu de se taire, eh bien, voilà qu'il nomme un nouveau gouvernement. Un nouveau gouvernement qui est chargé justement de gérer la continuité du nazisme. Et il y a là un paradoxe qui m'a sauté aux yeux à la lecture. Comment cela peut-il s'expliquer ? Eh bien, en regardant de près, on s'aperçoit que finalement, ces thématiques qui essaient d'expliquer le nazisme comme un centrisme par addition des extrêmes peuvent permettre de le comprendre. Tout d'abord, il faut s'apercevoir que depuis que la guerre avait pris la tournure dangereuse pour le nazisme qu'elle avait prise, en fait, tout le monde savait que la seule chance qu'avait le régime de s'en sortir, c'était une éventuelle paix séparée de l'Allemagne, soit avec l'Ouest, soit avec l'Est.
Soit avec la droite, soit avec la gauche.
À certains égards, oui, si on considère que Staline, c'est la gauche, vous voyez, le bolchevisme, bon, et donc, par voie de conséquence, la droite capitaliste, c'est Churchill et Roosevelt, et ça pouvait s'être élu comme ça. Et donc, il y a toute une histoire qui resterait à écrire de plus près des tentatives diplomatiques des nazis pour essayer d'aboutir à une paix séparée, et ils l'ont fait d'une manière tout à fait insistante, systématique et finalement, assez vite, je crois que c'est au fond dès la fin de l'été 1941, quand ils n'arrivent pas à abattre les soviétiques, que les plus fins d'entre eux s'aperçoivent que la guerre risque d'être perdue et qu'il faut trouver une issue. Bon, le problème, et c'est là qu'on arrive au testament, c'est qu'il y a un obstacle à une paix séparée qui est la personne de Hitler. C'est-à-dire que les Occidentaux auraient éventuellement accepté de négocier avec une Allemagne, vous voyez, une Allemagne menée par des résistants conservateurs qui auraient abattu Adolf Hitler. Staline aurait pu accepter de négocier avec d'autres Allemands, mais pas avec Hitler, parce que Hitler, justement, incarne toute l'abomination du régime nazi. Et à mon avis, c'est pour ça que cette paix séparée n'a pas pu être trouvée. Or, le testament politique, il a quel sens ? Puisque Hitler va mourir, va se suicider. L'obstacle principal à une entente entre l'Allemagne, soit l'Est, soit l'Ouest, est levé, se trouve levé. Et c'est pourquoi il est parfaitement logique que, en se tuant, eh bien, Hitler désigne un gouvernement, certes, mais avec deux successeurs possibles. On parle toujours comme successeur de Hitler de l'amiral Dönitz, parce que c'est lui qui a donné l'ordre de capitulation et que cet ordre a été suivi. Mais il ne faut pas oublier que dans son testament, Hitler désigne un président du Reich qui sera Dönitz, mais désigne aussi un chancelier qui va être Goebbels, qui a donc été chancelier du Reich pendant quelques heures. Et à mon avis, ça doit s'interpréter justement comme une trace ultime du centrisme hitlérien. C'est-à-dire que en mourant, en débarrassant la place, en rendant à l'Allemagne un espace ultime de manœuvre diplomatique, Hitler continue de vouloir jouer sur les deux tableaux. Il nomme Dönitz pour négocier éventuellement avec l'Ouest, parce que Dönitz a un profil de conservateur, de technicien de la marine, donc négocier avec les Anglais si possible. Et il nomme Goebbels, qui vient de la gauche nazie, qui a toujours été un nazi radical, lui, pour négocier avec les soviétiques. Et il y a des textes qui appuient cela, où on a des preuves de cette volonté qu'avait Goebbels depuis longtemps, hein, de revenir à la paix avec Staline. Et d'autre part, dans les faits, c'est ce qui s'est passé. À peine Hitler s'est-il tué que le chancelier Goebbels envoie des plénipotentiaires pour essayer de se faire reconnaître par Staline. Ça loupe, il se suicide et aussitôt après, c'est Dönitz qui, lui, essaye d'aboutir au même résultat avec les Occidentaux. Donc il y a ça. Mais ce texte de Hitler, ce testament politique, est aussi quelque chose de prodigieux parce que déjà, comme ça, il est à double fond. Il y a l'ouverture à l'Est et l'ouverture à l'Ouest. Mais dans le testament de Hitler, il y a un triple fond qui est sa dimension religieuse. C'est-à-dire qu'en le lisant, il y a des phrases qui sont incroyables. Hitler de dire aux Allemands qui vont lui survivre ou aux membres de son gouvernement que son esprit restera parmi eux, vous voyez, qu'il espère que de sa mort à lui naîtra la semence d'une renaissance du mouvement nazi. Autrement dit, il y a chez Hitler une pause qui est une pause quasi christique. à la fin de sa vie.
Sacrificiel.
Sacrificiel, absolument. Et c'est pourquoi, justement, il a, à mon avis, maquillé son suicide en sacrifice. C'est comme un sacrifice qu'il le présente. Et donc, pourquoi le bunker est-il vide, à mon avis ? C'est que, dans la tradition de l'Église, le signe le plus ancien de la résurrection du Christ, c'est que, le matin de Pâques, les saintes femmes arrivent au tombeau et le tombeau est vide, le corps a disparu. Pourquoi croyez-vous que Hitler se soit acharné comme cela à vouloir qu'on brûle son corps ? Précisément parce que si le corps de Hitler est brûlé, eh bien on peut douter de sa mort. Et il me semble qu'on a là un truc propagandiste tout à fait clair et avec lequel on est aux origines de tous les mythes qui ont couru sur une survie de Hitler. Autrement dit, il me semble qu'à l'extrême fin de la vie de Hitler, on retrouve justement ces thématiques dont je disais qu'elles étaient nées de la Révolution française, puisqu'il s'agit encore de s'ouvrir à la gauche et à la droite, et c'était la Révolution qui les avait séparés. D'autre part, on essaye in extremis de transformer le nazisme en une sorte de religion du Führer défunt. Or, cette exigence d'une religion nouvelle, dans notre histoire politique, elle est née justement de la Révolution française.
Mais c'est un échec.
Le ciel vous entende. Je veux dire oui, effectivement, et Dieu
pourquoi
merci.
Pourquoi dites-vous le ciel vous entende ? Parce que le national-socialisme, avec la mort d'Hitler, a disparu, en tous les cas, en 1945.
Oui, c'est vrai. Et la meilleure preuve de l'échec d'Hitler est évidemment 1989. C'est-à-dire que lorsqu'il écrit son testament, le but est quand même d'espérer une renaissance de l'Allemagne au sein du national-socialisme. Et finalement, la réunification de l'Allemagne s'est faite en 89, et c'est la réunification d'une Allemagne de gauche, l'Allemagne démocratique, ou prétendue telle, et l'Allemagne de droite, la RFA. Et cette réunification a eu lieu, et elle a eu lieu sans le nazisme. Et je crois que c'est ça la pierre la plus lourde sur le tombeau de Hitler. Simplement, je pense que nous ne sommes pas au bout de l'histoire. Donc on ne sait pas du tout comment les choses peuvent tourner, et que surtout, à certains égards, dans le statut d'icône du mal absolu, vous voyez qui est celui d'Adolf Hitler dans la culture contemporaine. Vous voyez, mine de rien, il y a quelque chose qui répond à la demande de divinisation posthume de Hitler. Vous voyez, en faire un diable, en faire le diable, c'est quand même une manière d'en faire un dieu. Vous voyez, et c'est pourquoi je dis que nous ne sommes peut-être pas encore au bout de cette histoire-là.
Eh bien, c'est sur ces mots que nous allons nous quitter. Fabrice Boutillon, je vous remercie beaucoup.
Moi aussi, monsieur.
D'avoir répondu à notre invitation. J'ai oublié de mentionner que votre livre et chapitre ici, donc, et le bunker était vide, a reçu le prix Henri Hertz de la chancellerie des universités de Paris. Donc, Nazisme et Révolution, histoire théologique du national-socialisme, 1789-1989, un ouvrage coédité par les éditions Fayard et la revue Commentaire. Merci beaucoup, merci à vous tous, auditeurs, et à très bientôt pour une nouvelle émission d'Un jour dans l'histoire.